nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les noces de Cana en Galilée. Le Seigneur se rend au début de sa vie publique à un mariage. Vous le savez, pour nous, c'est important. C'est le signe de la sanctification du mariage, le signe de son élévation à la vie divine, à la vie éternelle. Alors, c'est très simple, je vais vous dire quelques mots d'abord du mariage humain que cela présuppose, pour ensuite passer au mariage divin. Et oui, tout d'abord, le mariage est une institution humaine. Au contraire des autres sacrements qui ont été créés par notre Seigneur, à partir de rien, allais-je dire, le sacrement du mariage n'est pas créé. Le sacrement du mariage est constitué sur une réalité naturelle. Et vous le savez, c'est très important, les chrétiens ont toujours conservé cette idée profonde que d'abord, c'est une institution humaine et qu'il faut les conditions de l'institution humaine pour arriver au sacrement. Ces conditions de l'institution humaine, elles nous sont vues à travers Marie et à travers les serviteurs. D'abord, le point essentiel, la Vierge Marie. La Vierge Marie, ici, c'est elle qui est invitée. Vous avez vu, c'est étonnant, on nous l'a précisé, vous savez qu'on ne nous précise jamais rien par hasard dans l'Évangile. C'est Marie qui est invitée à ce mariage. C'est très humain. Et puis, comme Marie est invitée, Jésus aussi et ses disciples aussi. Un grand mariage, un mariage à l'oriental, mais c'est Marie qui introduit le Seigneur dans cette humanité, qui l'a portée dans l'humanité et qui maintenant va l'introduire dans cet acte fondamental de l'homme et de la femme. Et oui, on se marie depuis la création du monde. Hommes et femmes, ils furent créés pour se rencontrer et donc se marier, une réalité naturelle qu'il est presque étonnant qu'on soit obligé de rappeler, tant c'est une évidence qui devrait sauter aux yeux de tous. L'homme et la femme sont faits pour se rencontrer et c'est Dieu qui l'a voulu dans sa création. C'est donc déjà quelque chose de bon. Mais voilà, la Vierge Marie va manifester quelque chose d'essentiel, c'est la charité. La charité, c'est-à-dire l'amour, qui est la plus grande des vertus théologales, de l'espérance, de la foi et de la charité, dit saint Paul, la plus grande, c'est la charité, car elle ne disparaîtra pas. Nous n'aurons plus besoin de la foi. Quand nous verrons Dieu face à face, nous n'aurons plus besoin d'espérance, car nous posséderons enfin l'objet de notre espérance. Nous ne vivrons plus que de la charité, de l'amour. Et oui, en Dieu, c'est une seule et même chose, que son essence et son existence, Dieu est amour, il le réalise. Cette charité, c'est ce qui informe toute notre vie, dit saint Thomas d'Aquin. La charité est la forme de toutes les vertus. Il ne peut rien y avoir sans l'amour. On ne peut pas se marier sans amour. On ne peut pas être prêtre sans amour. On ne peut pas travailler sans amour. On ne peut pas réfléchir sans amour. Sans quoi, très rapidement, il ne reste plus qu'une coquille vide. On se vide et on se désespère, et finalement, on disparaît. Il n'y a que l'amour qui soit quelque chose de durable. Mais attention, l'amour n'est pas un vague sentiment, une espèce de quelque chose qui vous fait quelque chose au cœur, même si ça peut vous toucher au cœur. C'est d'abord et surtout des actes. Res non verba, l'amour se manifeste en actes. Il ne suffit pas de dire qu'on aime les gens, ça leur fait plaisir, c'est déjà un acte d'ailleurs, de leur dire qu'on les aime. Encore faut-il que cela se manifeste, que cela perdure, que cela existe. Eh bien, c'est ce que fait la Vierge Marie à ce mariage. Elle ne dit pas simplement qu'elle aime bien les gens qu'il a invités. Elle est attentive. Une des premières conditions de la charité, c'est l'attention et la délicatesse. Or, elle a vu et elle va agir. Elle dit à son fils qu'il n'y a plus de vin. Je vais y revenir dans la deuxième partie. Non sans d'abord avoir vu les serviteurs. Les serviteurs, que représentent-ils à mon avis? Ils représentent l'obéissance et le désir de courir au-devant de ce qui est proposé. Ils sont magnifiques, ces serviteurs, ils ne connaissent certainement pas très bien le Christ, qu'ils ont peut-être déjà entendu parler de lui, c'est un grand rabbi qui parle avec autorité, mais en tout cas, au simple mot « aller et puiser de l'eau », remplissez les jarres, puis puisez et donnez au maître, ils le font sans sourciller, sans répondre, sans même douter un instant que cela puisse ne pas fonctionner. C'est l'obéissance de la foi. Cette obéissance de la foi à laquelle nous sommes invités quand nous entrons dans le mariage, quand nous entrons dans cette vocation naturelle, d'abord naturelle du mariage, qui suppose l'unité de toute la vie, qui suppose la fidélité de toute une vie, qui suppose l'indissolubilité durant toute une vie, qui suppose l'accueil de la vie. S'il manquait une de ces conditions du mariage, eh bien tout simplement, ça ne serait pas un mariage. Les gens pourraient être pleins de foi, pleins d'amour de Dieu, se marier même à l'Église, vous le savez. S'il manquait l'une de ces conditions fondamentales, le mariage serait nul. Il n'y aurait pas de mariage. Et oui, on ne peut pas s'aimer à l'essai. On ne peut pas s'aimer en part-time, pour faire un peu d'anglais pour une fois. C'est-à-dire, on ne peut pas aimer une femme, ou un homme, ça marche dans les deux sens, hein, le lundi, le mardi, le mercredi, et puis une autre personne l'autre bout de la semaine. Ce n'est pas se donner. Le mariage n'est pas une colocation, le mariage n'est pas une coopération, le mariage n'est pas un projet je ne sais quoi. Le mariage, c'est le don de toute sa vie. C'est se remettre dans le cœur de l'autre et donc matériellement entre ses mains. Voilà ce qu'est le mariage. Cela suppose un don total, un don sans retour, sans quoi ce n'est pas donné, ça s'appelle prêter. Et prêter n'est pas se marier. Pour se marier, il faut accepter de tout donner. Je sais que ça fait peur, je sais que c'est énorme, mais c'est le prix du bonheur. Vous ne serez jamais heureux en vous prêtant un petit peu à n'importe quel jeu dans la vie. Vous ne pourrez être heureux qu'en donnant et en donnant tout, car tant qu'on n'a pas tout donné, comme le dit Mère Teresa, en fait, on n'a rien donné. Voilà pour ce mariage sur lequel je ne veux pas m'étendre trop parce que je veux passer à la dimension sacramentelle, mais il nous faut encourager, il nous faut insister, il nous faut aimer les gens qui vont s'engager dans ce grand sacrement du mariage qui est une vocation naturelle pour qu'ils puissent justement l'élever au plan surnaturel. N'ayez pas peur autour de vous, n'ayez pas peur de proposer cette exigence qui est la seule porte du bonheur. Ne nous y trompons pas. Et si vous-même vous êtes déjà marié, n'ayez pas peur de renouveler les promesses de votre mariage, de le rendre encore plus beau, encore plus exigeant. Car les grâces que vous avez reçues au jour de votre mariage, vous ne les avez pas reçues pour le plus beau jour de votre vie. Vous les avez reçues pour toute votre vie. Vous les avez reçues, le bras de Dieu ne va pas se raccourcir, c'est l'inverse. Au fur et à mesure que votre vie va grandir, les grâces vous seront données de plus en plus si vous voulez les recevoir. Mais voilà, il y a plus encore dans le mariage chrétien, il y a quelque chose de divin. Un miracle et une étonnante intervention de la Vierge Marie. Tout d'abord, le miracle. Le miracle, il est patent, il est éblouissant. Vous savez, toujours, vous rencontrerez des gens qui aiment bien ergoter, chercher, et si les miracles, c'était ceci, cela, si raisonnablement. Alors celui-ci, il est très embêtant, pour ceux qui aiment à ergoter, hein, parce que, j'ai entendu dire, hein, mais vous savez, toujours un petit peu de sang, un petit peu de science éloigne de Dieu et beaucoup en rapproche. Peut-être avez-vous déjà entendu dire, oui mais vous savez dans l'Antiquité le vin était très épais, ce qui est vrai, et alors on le mettait dans des jarres et puis on mettait une grosse quantité d'eau pour faire du vin. Oui, très bien. Sauf que ici ce ne sont pas des jarres de vin, tout d'abord, ce sont les jarres pour les ablutions rituelles, donc ce sont des jarres d'eau, donc il n'y a pas de vin dans le fond. Hein, parce qu'on ne se lave pas les mains dans du vin, voilà, on se lave les mains dans de l'eau. Et puis, ensuite, surtout, on nous précise bien qu'il y a 2 ou 3 mesures, c'est-à-dire entre 500 et 600 litres dans chaque jarre. Et il y a 6 jarres. Alors, c'est un miracle totalement incroyable. C'est pas avec un vieux fond de vin pourri ou je ne sais quoi qu'on a fait 6 fois 600 litres de vin. Non, c'est un miracle tout à fait éblouissant. C'est un miracle incroyable, c'est-à-dire c'est un miracle. Voilà. Effectivement, ceux qui se refusent à voir un miracle ici se refusent tout simplement à voir un miracle dans le mariage. Et oui. Dans l'union de l'homme et de la femme, il y a déjà un projet bon qui se trouve dans la nature il y a plus que ça. Il y a un projet divin qui va constituer l'homme et la femme comme le visage même du Christ pour son époux. Oui, c'est bouleversant, c'est un abîme, vous qui êtes mariés, de toute votre vie. Il ne vous sera pas donné un visage plus explicite ni plus proche du Christ que celui de votre époux et de votre épouse. Vous devenez l'un pour l'autre, non seulement les réalisateurs du projet divin, vous devenez les ministres de ce sacrement. Ce n'est pas pour rien que ce n'est pas le prêtre qui vous marie, peut-être le savez-vous, c'est vous qui vous mariez au jour de votre mariage. En échangeant vos consentements, vous êtes les ministres du sacrement. Le prêtre est comme le Christ, il est invité à ce mariage, il en est le témoin obligatoire et nécessaire, mais il n'en est que le témoin. Et oui, dans votre vie, en vous donnant l'un à l'autre, vous ne vous donnez pas seulement de bonnes choses humaines, vous vous donnez le Christ lui-même. C'est le visage du Christ qui va vous conduire à Dieu. Ce chemin humain devient un chemin divin de sanctification. Alors, le dernier point, et peut-être c'est celui que vous attendez, car c'est celui qui nous heurte normalement quand on lit les noces de Cana. Quelle est cette histoire entre Jésus et Marie, ici, dans ce miracle qui se produit? Car vous l'avez entendu, il semble que le Seigneur ne soit pas très bien disposé à l'attention de sa très sainte mère. Il lui dit par deux fois non, en quelque sorte. Femme, en latin c'est mieux traduit qu'en français, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Ça c'est rude, hein? Et puis, il lui explique, mon heure n'est pas venue. D'abord, il l'appelle femme. Ça, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que même si on n'appelle pas comme ça sa maman, même en araméen, ici, il lui donne un titre tout particulier, qui lui donnera deux fois dans l'Évangile. Une fois ici à Cana et une fois au pied de la croix. Il ne désigne pas femme dans le sens péjoratif ou en dire « loin de moi femme », non. Il donne un titre à sa mère, le titre de la mère de l'humanité, la nouvelle Ève qui réengendre le monde. Il lui donne un titre qui dépasse tous les titres qu'on peut donner à une femme. Il lui dit « tu es la femme, tu es la féminité et donc l'humanité ». Car c'est de la femme, une réalité naturelle qu'il nous faut encore rappeler de nos jours, c'est de la femme que naît l'homme et la femme. Oui, en l'appelant femme, il l'élève et la place au-dessus. Mais voilà, il va lui dire quelque chose de vraiment désagréable. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? C'est-à-dire, reste à ta place. Tu es peut-être la femme, mais tu n'es qu'une femme. Moi, je suis Dieu. Celui qui doit opérer le salut du monde, c'est pas toi, c'est moi. Reste à ta place. Et quand même, il lui explique, je pense, gentiment, mon heure n'est pas venue. Il a bien compris que ce que voulait la Vierge Marie, c'est pas juste qu'on mette un petit peu de vin. Car le vin dans le mariage, évidemment, vous imaginez, c'est pas juste un peu de vin pour qu'on soit plus gai. C'est l'union avec Dieu. Dans toute la Bible, dans tout l'Ancien Testament, le vin, c'est l'union divine. La vigne du Seigneur Sabaoth, c'est le peuple d'Israël, dit le psaume. Et oui, c'est l'union à Dieu. S'il n'y a plus de vin, la Vierge Marie l'a vu, c'est peut-être un désastre humain, c'est surtout un désastre divin. Plus de vin égale plus de Dieu, ça devient un mariage païen. Alors, la Vierge Marie insiste, mais pourtant, ce n'est pas son rôle et ce n'est pas le moment. Il n'est pas encore prêt de mourir sur la croix et de manifester la gloire de Dieu. Alors je vous pose la question, après lui avoir dit non deux fois, enfin lui avoir dit non et lui avoir expliqué pourquoi c'est non, pourquoi le Seigneur fait-il le miracle? Pourquoi finalement est-ce qu'il change d'avis? Pourquoi est-ce qu'il va céder aux instances de sa mère qui sont très douces? Sa mère ne se rebelle pas, elle ne lui dit pas « c'est n'importe quoi », pas du tout. Elle lui dit, elle envoie simplement les serviteurs en disant « faites ce qu'il vous dira ». Posez-vous cette question, pourquoi le Seigneur change d'avis, lui qui est Dieu, lui qui sait tout, lui qui savait par avance la question que sa mère poserait? Eh bien, c'est qu'il attendait quelque chose d'important, que la Vierge Marie introduit ici pour notre salut. Elle est vraiment la coopératrice de la grâce de Dieu. Le Seigneur attendait que Marie, elle qui est la femme, qui représente ici toute l'humanité, manifestât sa conscience droite et la certitude du bien qu'elle a entrevu. Le Seigneur tente de la retenir, le Seigneur tente de la rabrouer, mais Marie, dans son cœur, sa conscience lui a dicté que c'était le moment de demander quelque chose au Seigneur. La Vierge Marie nous réintroduit dans le miracle divin qui se produit, qui n'est plus seulement l'action divine, mais l'action divine faite en coopération avec l'humanité, grâce à Marie, qui poursuit le bien, qui a décidé dans son cœur, avec détachement, que là était le bien à trouver. Elle le dit, et le Christ le reconnaît, il va s'exécuter. Mais bien, chers frères, en suivant des yeux la Vierge Marie, ne quittez jamais la grandeur de l'âme humaine qui peut dire ce qui est bon, qui peut voir le bien et se décider pour lui contre vents et marées. Ainsi soit-il.